Que pourrait dire le curé d'Ars aux prêtres et aux fidèles d'aujourd'hui face à la crise que nous traversons, le monde, la société, le prêtre, etc. Il y a peu de temps, le pape parlait d'une église blessée dans laquelle vivaient les serviteurs que nous sommes au service des laïcs que vous êtes, dans une humanité blessée au sein d'une création blessée, trois fois le mot blessé. Dans un monde blessé, plusieurs questions se posent aux prêtres comme aux fidèles concernant la vie du prêtre, voire même une crise existentielle. Ces questionnements ne sont pas absents de la population déclarée comme chrétienne, je cite. Cela touche en effet la mentalité de notre siècle, séduit par la réussite et l'épanouissement personnel, la réalisation de soi, et recevant comme une insulte tout questionnement sur sa propre liberté, ou tout délai dans les autorisations, ou encore se trouvant méprisé sitôt qu'apparaît la première frustration. Nous savons bien que les questions envers les prêtres, pour pertinentes ou précises qu'elles soient, remontent souvent aux questions aussi envers les fidèles eux-mêmes, leur foi, leur mode de vie. À Ars, et en présence du Saint curé d'Ars donné comme le saint patron de tous les curés Urbi et Orbi, qu'on a traduit par tous les curés de l'univers, nous ne pouvons pas ne pas chercher à répondre, d'autant plus que Jean-Marie Vianney est aussi donné depuis 1905 par Pie XI comme saint patron de tous les prêtres de France, ce qui ne peut laisser aucun prêtre de France indifférent. Notre clergé français a peut-être encore à recevoir quelque chose du vieil enfant sublime, comme le disait Bernanos, cité par sœur Marie Macaire tout à l'heure. Alors on va aller sur 9 rubriques. Certaines seront très courtes, rassurez-vous. Premièrement, sortir des clichés. Il y a des clichés. Deuxièmement, une vie devant Dieu. Troisièmement, le prêtre donné à Dieu, donné aux hommes. Quatrièmement, l'humour du curé d'Ars et sa pertinence. Cinquièmement, son secret, une vie qui puise sa source dans l'amour de Dieu. Sixièmement, charité et vie évangélique. Septièmement, la joie des choses de Dieu. Huitièmement, l'offrande de soi, l'obéissance, la mission, le jeûne. J'aborderai le jeûne, c'est un sujet délicat, j'ai fait exprès. Et si le temps nous est donné, sur l'usage du libre arbitre, il a des mots extraordinaires. Et nous concluons. Sortir des clichés, eh bien, si vous regardez le livre qui a été évoqué par sœur Marie Macaire tout à l'heure de l'abbé Naudet, un peu de statistique va nous aider. 48 fois, on voit le mot malheur, 26 fois le mot malheureux. Mais on voit 94 fois le mot bonheur, 86 fois le mot heureux, total 180 fois le mot bonheur et heureux, et seulement 74 fois le mot malheur et malheureux. Et on aurait un regard triste sur le curé d'Ars. Souffrir 44 fois, le mot paix 35, souffrance 30 fois, le mot joie 32 fois, le mot sacrifice 25 fois, le mot confiance 19 fois. On voit quand même des rééquilibrages qui se font. Mais ce qui prime, c'est le mot bonheur et bienheureux. Et cette phrase est bien connue du curé d'Ars qui dit bien des choses du baptisé et du prêtre. Quel bonheur de t'aimer, Seigneur, et d'être aimé de toi et de te faire aimer. Les phrases connues comme « Là où les saints passent, Dieu passe avec eux » ne doivent pas cacher les autres. Les autres phrases où le disciple se livre entre les mains de Dieu, tout entier à Dieu, tout pour Dieu. Ni ce qui paraît un peu fou, notre bonheur sur terre, c'est d'aimer Dieu et d'être aimé de lui. Aux yeux du monde, c'est un peu fou. Tout ce que je vais vous dire est une relecture de livre de l'abbé Monin, publié en 1866. Ce livre, qui a échappé à tous mes déménagements, a 160 ans presque. C'est intéressant de repérer non seulement les mots qu'on connaît tous, mais la situation. Et là, ils prennent une profondeur extraordinaire. Parce que lorsqu'on a répertorié toutes les phrases clés, on a laissé de côté le contexte. Et alors là, c'est vertigineux. Du point de vue journalistique, et je dis rien contre les journaux, mais journalistiques, culturels, mondains, etc., ne seront jamais adéquats pour dire l'identité du prêtre. Ça ne suffit pas. Doit-il être mis sur un piédestal? Vous avez bien vu que j'essaye de voir quel regard nouveau donner sur le prêtre et au prêtre lui-même. La question de l'identité du prêtre est-elle si centrale aujourd'hui? Est-ce là la raréfaction des vocations? Mais est-ce qu'on se la pose aussi vis-à-vis du chrétien? Alors, qui est le prêtre pour Jean-Marie Vianney? On va faire des constats successifs, vous allez voir. Je vous ai dit, j'ai fouillé le livre de l'abbé Monin, il a été pendant 2-3 ans le vicaire du curé d'Ars. Donc il atteste de ce qu'il a vu, c'est extraordinaire. On apprend par lui, il vit ce qu'il dit, c'est le constat que fait un paroissien. Tout prêtre, tout chrétien ne peut que s'enthousiasmer de l'harmonie de vie obtenue par ce petit prêtre de la Dombe. Si fidèle à l'oraison, autant qu'au service des pauvres. Aussi soucieux de la grandeur de Dieu que de l'éducation des orphelins, du ménage du bon Dieu que de la fécondité des récoltes. D'autre part, Jean-Marie Vianney donnait comme définition lui-même du prêtre, appelé à gagner des âmes à Dieu. C'est vrai. On se demande alors comment pourrait faire aujourd'hui celui-là même qui ne serait pas gagné à Dieu, gagné par Dieu, pour que Dieu puisse à travers lui gagner à lui ceux qu'il voudrait. Et nous savons aussi que ce prêtre bon, tenta de fuir la charge de curé tant qu'il s'en trouvait indigne, et tant il en était écrasé jusqu'à la troisième tentative de fuite d'Ars, où il dira au frère Athanase, je cite, « J'ai voulu mettre le bon Dieu au pied du mur, afin de lui faire voir que si je meurs avec la charge de curé, c'est bien malgré moi, c'est parce qu'il le veut. » Autrement dit, jamais la gloire éventuelle ne l'avait effleuré. Et s'il mourait en étant curé, ce serait bien la volonté de Dieu, on dirait « c'est la faute de Dieu ». Tenté qu'il était par le désespoir et non par l'orgueil d'une réussite qu'il n'attribuait de toute façon qu'à Dieu ou à sainte Philomène, sa sainte si efficace. Pour Jean-Marie Vianney, en fait, les choses se situent bien plus profondément, nous allons le voir. Quelle image Jean-Marie Vianney a-t-il de lui-même? Un paroissien un jour s'adressait à lui, « Monsieur le curé, vous aimez vos missionnaires ?» Il y avait des missionnaires qui venaient et qui sillonnaient. Vous leur laisserez en partant le manteau des lits ?» Et lui de leur répondre, « Mon ami, il ne faut pas espérer un manteau là où il n'y a même pas une chemise. Il n'est donc que serviteur, et bien sans mérite et bien sans valeur personnelle. » On lui faisait remarquer aussi qu'il avait été le premier, le seul chanoine créé par Monseigneur Chalandon. Sous-entend, c'est sur la fin de sa vie, c'est sous-entendant sa valeur inégalée. Et il répond, « Je le crois bien, Monseigneur a eu la main par trop malheureuse. Il a vu qu'il s'était trompé et il n'ose plus recommencer. » Humble serviteur, pas plus qu'un zéro, Thérèse de Lisieux plus tard le dira elle-même et dans les mêmes mots. Oui, pour Jean-Marie Vianney, les choses sont plus profondément encore. Catherine Lassagne en fut témoin, je vais citer, « La placidité du curé d'Ars, tandis qu'il recevait publiquement des compliments. Et à celle qui s'en étonnait, le curé d'Ars répondit, je cite, « Voyez le danger qu'il y a à s'arrêter à des sentiments humains. Ce matin, j'aurais perdu la tranquillité de l'âme si j'avais voulu faire attention aux injures qu'on m'adressait. Et ce soir, j'eusse été grandement tenté d'orgueil si je m'étais fié à tous ces compliments. Oh, comme il est prudent de ne pas se prendre aux vaines opinions et aux vains discours des hommes et de n'en faire aucun cas. » Jean de la Croix dit pareil. On est ce qu'on est devant Dieu. Ainsi, l'appel la plus profonde pour lui se trouvait dans le face-à-face avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de la paix, mais vous allez voir, de tout l'être personnel. Et parce que cette phrase remonte encore plus loin, et on peut s'en donner une idée si on fait appel à une homélie où il devait parler de la Vierge Marie, et il pose la question de savoir qui pourrait parler suffisamment bien de la Vierge Marie, celle que le curé appelait la portière du ciel. Ni lui, ni personne d'autre, car, répondit-il, seulement Dieu, car elle est devant Dieu, elle est ce qu'elle est devant Dieu. Quand il dit « on est ce qu'on est devant Dieu », il le voit là. Ainsi donc, bien plus que d'être une ascèse de décentrement de l'ego, toujours avide de reconnaissance, pourquoi pas, et de compliments, ça c'est un piège, il s'agit d'un constat, en vérité, de l'être de chaque personne. Chacun, quelle que soit la reconnaissance sociale et l'image même qu'il se fasse de lui-même, de son métier, de sa vocation, il est, premièrement, dans le regard de Dieu. Deuxièmement, de cela, il tire sa raison d'être, son équilibre de vie, et finalement, troisièmement, il tire l'accomplissement de sa mission. Il s'agit d'un constat en vérité. On comprend alors cette phrase déjà citée par la sœur tout à l'heure, « L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. » C'est logique, il est devant Dieu. Voilà peut-être ce que voulait dire cette phrase ultimement de Jean-Marie Vianney. Je conclus ces premiers paragraphes. Nous constatons donc que toute sa vie, Jean-Marie Vianney se situe devant Dieu et uniquement. Qu'il s'agisse de 2 heures de prière devant le tabernacle tôt le matin, qu'il s'agisse des œuvres de charité, qu'il s'agisse des démarches pour les finances de la Providence, ou en préparation pour les 97 missions diocésaines prévues pour après sa mort. Qu'il s'agisse des longs temps au confessionnal, qu'il s'agisse du porte-à-porte évangélique ou du régissement du grappin à son endroit, tout est vécu pour lui devant Dieu. Sa cohérence de vie provient du constant face-à-face qui est le sien avec Dieu. Alors d'où ça vient chez lui? Eh bien, le prêtre est donné à Dieu et aux hommes. Il n'est ni auto-référencé, je ferai référence pour le coup au pape François, ni en freelance, ni en auto-empreneur, ni aumônier du château. Je prends des images. Ce que disait le curé d'Ars, il faudrait un séraphin pour célébrer la messe. Il est autre Christ. Eh bien, que dit le catéchisme prenant chez le curé d'Ars? Le catéchisme de l'Église catholique dit au paragraphe 1589, il y en a 3000, donc on est à peu près au milieu du catéchisme, et le saint curé d'Ars, je cite, hein, et le saint curé d'Ars, c'est, citation dans la citation, c'est le prêtre qui continue l'œuvre de rédemption sur la terre. Citation du curé d'Ars. Si l'on comprenait bien le prêtre sur la terre, on mourrait, non de frayeur, mais d'amour. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Ces phrases sont tirées du curé d'Ars, enfouies dans le catéchisme. On pourrait dire que Jean-Marie Vianney exagère. Eh bien alors, allons voir le paragraphe juste avant, qui est de Saint Grégoire de Nazianze. Qui est le prêtre? Le défenseur de la vérité, il se dresse avec les anges, il glorifie avec les archanges, il fait monter sur l'autel d'en haut les victimes des sacrifices, il partage le sacerdoce du Christ, il remodèle la créature, il rétablit en elle l'image de Dieu, il la recrée pour le monde d'en haut, et pour dire ce qu'il y a de plus grand, il est divinisé et il divinise. Il est divinisé et il divinise. Les pères de l'Église ont nourri les lectures du curé d'Ars. On en voit peut-être un exemple supplémentaire. Serviteur de Dieu, mais en même temps, prêtre, il est serviteur des hommes. Sa disponibilité à Dieu n'obère pas sa disponibilité aux hommes. Bien au contraire, elle la fonde. Citation. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui. Il ne se donne pas l'absolution. Il ne s'administre pas les sacrements. Il n'est pas pour lui, il est pour vous. Je reprends. Cela n'est pas seulement dans ses dires, mais dans son agir. Il accueille toute chose et tout événement avec simplicité et il en fait une réussite divine. Un des signes de sa disponibilité à Dieu, c'est sa disponibilité à la mission que lui confie le vicaire général Corbon de Lyon en l'envoyant à Ars. « Il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu, vous en mettrez. » Jean-Marie Vianney ne connaît pas Ars. C'est un lieu perdu dans la Dombe et sans grande notoriété. Pire, son prédécesseur en était parti un peu par la porte de derrière, en assénant un jugement très sévère sur ses paroissiens, les comparant à du bétail, oui, tout juste différent des bestiaux par le baptême reçu. Le curé d'Ars, sur la fin de sa vie, parlera au contraire de son cimetière, je cite, « ensemencé de saints ». Il rendra compte donc à Dieu et aux hommes, je ne confonds pas, ce qu'il fera dans un dévouement infatigable. Je parlais tout à l'heure de l'humour et de la pertinence, parce que tout ce que je dis paraît très sérieux, mais regardez l'humour du curé d'Ars. Quelle liberté qu'est la sienne. Jean-Marie Vianney n'est pas non plus un triste personnage. Il est connu pour son humour, autant que pour la pertinence de ses propos. Dans l'abbé Monin, il cite « Une religieuse lui disait avec bonhomie, on croit également, généralement, mon père, que vous êtes un ignorant. » Réponse « On ne se trompe pas, ma fille, mais c'est égal, je vous en dira encore plus que vous n'en ferez. » Avec humour aussi sur des réparties assez astucieuses et fines. Un personnage, la face épanouie, en forte, je cite toujours, hein, en forte santé, offrant un singulier contraste avec la pâleur et l'exténuation du saint vieillard, s'adressant au curé d'Ars, il disait « Je compte sur vous pour me faire bien venir là-haut. J'espère que vous n'oubliez pas vos amis et que vous leur faites une bonne part dans le mérite de vos jeûnes et de vos pénitences, ce que lui ne faisait pas. Quand vous irez au ciel, je tâcherai de m'accrocher à votre soutane. » Réponse. « Oh mon ami, gardez-vous-en bien, l'entrée du ciel est étroite. » Avec un petit regard malin, dit le Monin, « nous resterions tous les deux à la porte. » Il craignit ensuite que ces paroles, dites en riant et de la meilleure grâce du monde, dit l'abbé Monin, n'eussent affecté son visiteur. Il lui en fit ses excuses dans les termes les plus humbles et les plus polis, humour et pertinence. Deuxième exemple, pardonnez-moi, mais je cite, hein. Monsieur Vianney répondit à une grosse dame qui lui demandait ce qu'il fallait qu'elle fît pour aller au ciel. Réponse, ma fille, faites trois carêmes. Pardon, hein, pardon. On lui demandait aussi un jour des reliques pour une personne qui en désirait beaucoup. Et il répondit en souriant, qu'elle en fasse. Un saint triste est un triste saint. Et il disait, le curé d'Ars, si j'étais triste, j'irais me confesser. Et oui, nous verrons dans quelques instants que son entourage était séduit par sa bonté et l'atmosphère qu'il dégageait en société. Cinquième point, son secret. Quel est son secret? Le secret du curé d'Ars, c'est le secret de tout homme. C'est la vocation de l'homme à la divinisation. Je cite encore le curé d'Ars, Monin. Seul Dieu, il donne le témoignage d'un paroissien, Monsieur Auriol, qui disait « Seul Dieu peut combler les désirs du cœur, donner la paix à l'âme et nous rendre heureux ici-bas. » C'est un paroissien qui l'a dit. Hein. Le paroissien dit « Seul Dieu peut combler les désirs du cœur, donner la paix à l'âme et nous rendre heureux ici-bas. » Et il cite une phrase du curé d'Ars. C'est devenu la sienne. Le curé d'Ars reprend « Ô homme, que tu es heureux, mais que tu comprends peu ton bonheur. Si tu le comprenais, tu ne pourrais pas vivre. Oh non, bien sûr, tu ne pourrais pas vivre. Tu mourrais d'amour. » Il y en a une autre qui a dit ça 50 ans plus tard. « Ce Dieu se donne à toi. Tu peux l'emporter où tu veux, où tu veux. Il ne fait plus qu'un avec toi. » Baptême, Eucharistie, je cite. « Nous avons trop de bonheur, dit-il. Nous ne le comprendrons qu'au ciel. Quel dommage. Que c'est dommage. » Et cet amour, je reprends la parole, est accru par la communion, la transformation de vie. Pourquoi se priver de la grâce quand on voit que c'est saint? Pourquoi s'en priver quand on voit les si beaux fruits? Et il dira lui-même, on sait quand une âme a reçu dignement le sacrement de l'Eucharistie. Ah bon? Ben parce qu'il y a des effets de l'Eucharistie. Elle est humble, l'âme en question, elle est humble, elle est douce, elle est mortifiée, elle est charitable, modeste. Elle s'accorde avec tout le monde. C'est une âme capable des plus grands sacrifices, Enfin, elle n'est plus reconnaissable, sous-entendu dans sa défiguration d'avant. Conclusion, si cela ne s'est pas produit, c'est, si la vie n'est pas réellement transformée, c'est qu'elle n'a pas encore communié réellement à Dieu présent. Ah, elle a communié à l'Eucharistie, mais est-ce que la communion intérieure s'est faite? Le chrétien situé en âme, et, je reprends, c'est moi qui dis, c'est le chrétien situé en âme et conscience devant Dieu ne peut pas mentir, ne peut pas mentir. S'il ment, c'est qu'il n'est pas réellement ou pas totalement encore devant Dieu en âme et conscience. Parce que devant Dieu, en âme et conscience, seule la vérité peut être vécue. À la fois, donc, c'était humour et pertinence. La charité et la vie évangélique, ou l'importance de la charité vécue, en particulier la vie évangélique sacerdotale. C'est important parce que j'ai toujours en ligne de mire comment répondre à un prêtre ou vivre à un prêtre aujourd'hui dans la société actuelle. Pour le prêtre, la charité est vécue d'abord dans la vie fraternelle. C'est ce que m'a fait découvrir le curé d'Ars il y a quelques jours en approfondissant le sujet. Nous savons quelle importance Jean-Marie Vianney donnait à la charité. Le passage fameux de la pétition pour le libérer de l'ennuyeux et pesant vicaire Abbé Raymond en est un exemple. J'explique. Apprenant qu'une pétition circulait pour que l'évêché reprenne et envoie un autre à la paroisse, un autre que l'abbé Raymond, et tombant sur la pétition qui était faite, le curé d'Ars est à deux doigts de se mettre en colère et a une réaction double. À l'endroit du vicaire, un peu rugueux, et des paroissiens qui veulent son départ, il dit, je cite, « Si on lui fait de la peine, en faisant partir, nous partirons tous les deux. » Deuxième réponse, qui est plus profonde, et on le sait par confidence de la part de la comtesse des Garrets d'Ars, que dirait-on si on voyait que deux prêtres n'ont pas pu s'accorder? C'est grave. Ça en dit long, je reprends, ça en dit long sur la vie de charité du curé d'Ars et le témoignage évangélique du prêtre et de la vie des prêtres. C'est immédiatement en ligne de mire dans la mission. On ne peut pas prétendre vivre la miséricorde si on ne vit pas la miséricorde. Une fois, une autre fois, vous allez voir que c'est vraiment dans son être, une autre fois où il avait été calomnié, je cite, « Il a bien dit du mal de moi, et moi j'ai bien prié le bon Dieu pour lui. Je me devais de prendre soin de lui. » Rapidement dit, on peut lire, « Je devais prier pour lui, il avait dit du mal de moi. » Voilà. C'est la dimension du pardon comme conversion. C'est une attestation de la présence de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est une œuvre évangélique de Dieu dans le cœur du prêtre. Vous comprenez pourquoi, chers confrères, qui étaient à la session du Triduum, lorsque j'ai entendu hier, en fin de journée, la vocation fraternelle est le terreau privilégié de la grâce du pardon, car le pardon est une grâce et à recevoir comme telle. La vocation fraternelle est le terreau privilégié de la grâce du pardon. J'accueille la grâce pour ce qu'elle est, gracieuse et gratuite. Le frère est le don qui protège le pardon comme un don gratuit. Sinon, j'utilise le pardon ou je le prends à mon profit. Après tout, j'étais pas si mal que ça. Le frère, c'est le don qui protège le pardon comme un don gratuit. Le curé d'Ars disait aussi, je ne l'ai pas noté, mais je vous le dis maintenant, à côté de l'abbé Raymond, il dira « Sans l'abbé R, et il n'y va pas plus loin, je n'aurais jamais su si j'aimais Dieu. » Supporter l'abbé Raymond, il fallait aimer Dieu. Voilà. La charité qui forge toute vie fraternelle et sacerdotale en particulier, et c'est un avant-goût déjà vécu de ce qui nous attend au ciel. Il le dit lui-même, je cite, « Mon Dieu, quand on sera en paradis, puisque déjà sur la terre la compagnie des saints est si aimable, leur conversation a tant de charme et de douceur. On sera bien en paradis, puisque déjà sur la terre la compagnie des saints est si aimable, leur conversation a tant de charme et de douceur. » Il ne parle pas seulement des saints dont il a mis les tableaux dans son église en disant « Je leur fais une place dans mon église pour qu'ils me fassent une place au ciel. » C'est vrai, mais il parle des saints, nous. Et l'abbé Monin note, à la suite de cette, il note, « Cette exclamation nous est échappée souvent au sortir de ses entretiens du soir, où par un privilège insigne, les missionnaires d'Ars, j'évoquais tout à l'heure, furent successivement admis dans l'intimité du serviteur de Dieu. On sentait qu'on puisait là une des plus rares faveurs de la Providence. Et on ne cessait de se le témoigner, tantôt par des paroles, tantôt par des larmes, le plus souvent par un religieux silence. C'est l'endroit où Dieu se dit. Seuls applaudissent des impressions vraies et profondes. Citation toujours de Molin. Nous sentons bien qu'il se passait quelque chose. Et c'était leur joie d'être avec le curé d'Ars. D'où, je reprends la parole, d'où l'importance de la vie fraternelle sacerdotale comme écrin de charité vécue, parfois fortement réclamée par les jeunes prêtres, d'autres fois si fortement fuie, malheureusement. Alors, je parlais de la charité vécue et fraternelle en particulier, je vais m'attarder sur l'usage des mots, nos paroles. Ces paroles inutiles, ou en souci de communion, jamais de paroles inutiles et feu les controverses. Toujours chez le curé d'Ars, le souci de la communion sur le choix des paroles et le refus des paroles inutiles. Je cite Monin. Nous avons remarqué que, suivant le conseil de saint Paul, il évitait les discours vains et profanes, les questions oiseuses qui prêtent à la controverse et qui passionnent plus qu'elles n'édifient. Si quelque léger débat s'engageait devant lui, il gardait un modeste silence, comme s'il eût craint en se prononçant de désobliger l'une des parties. Il sentait bien qu'on voulait prendre la partie d'un côté ou d'un autre. Lorsqu'il en était prié, il intervenait par un mot gracieux et conciliant et par un de ces grands principes qu'on ne discute pas et qui remettent la paix entre les adversaires en les amenant non sur un terrain qui divise, mais sur celui qui unit et où la lutte n'est plus possible. Et il conclut, l'abbé Monin toujours, il envisageait tout de ce point de vue, familier au saint, où réside la lumière sans ombre. La conscience était son seul horizon. Le monde extérieur n'existait pas pour lui. Toujours Monin, je reprends, la conscience était son seul horizon. Pourquoi ? Parce que la conscience est toujours devant Dieu pour lui. Newman va être présenté comme docteur de l'Église selon la conscience. Septième et huitième paragraphe sur la joie des choses de Dieu. Il y a deux marqueurs chez le curé d'Ars, sans doute plus, hein, mais deux. D'un côté la simplicité et de l'autre côté le fondement radical dans l'amour du cœur de Jésus. La simplicité, je cite Monin, « Si sublime que fut l'entretien, le bon curé conservait la simplicité qui est le vrai caractère des enfants de Dieu. » Tout en parlant des saints, du ciel, des choses divines, il gardait son langage familier et ne connaissait que les comparaisons populaires. Et il donne une citation. « Être roi, triste place, on est roi pour les hommes, mais être à Dieu tout entier, être à Dieu sans partage, le corps à Dieu, l'âme à Dieu, un corps chaste, une âme pure, oh, il n'y a rien de si beau, disait le curé d'Ars. » On connaît la conclusion, mais quand on voit qu'il compare à un roi, la simplicité. Soyez saints entre vous. Un autre, le fondement, je disais tout à l'heure. Le curé d'Ars disait, aujourd'hui, faites du Sacré-Cœur, le Seigneur nous met sur son cœur, si nous pouvions toujours y rester. Et Monin dit, joignant les mains et élevant au ciel ses yeux pleins de larmes, ô cœur de Jésus, cœur d'amour, fleur d'amour, le cœur c'est tout ce qui restait entier dans le très saint corps de notre Seigneur après que Longin l'eût percé pour en faire sortir l'amour. Vous savez, le centurion qui a percé, on lui donne le nom de Longin. Je reprends. Si nous n'aimons pas le cœur de Jésus, qu'aimerons-nous donc ? Il n'y a que de l'amour dans ce cœur, comment fait-on donc pour ne pas aimer ce qui est si aimable ? Les deux marqueurs, simplicité et cœur de Jésus. Maintenant, la joie des choses de Dieu. On comprend, c'est la conclusion. Il fait l'expérience de sa pauvreté personnelle, on l'a évoqué tout à l'heure. L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Mais rien de lui appartient en propre. Il n'est sûr de rien que de Dieu et du Saint-Esprit en particulier. Il le dit, comme les peines de ce monde sont douces avec le Saint-Esprit. Il peut ainsi renoncer à tout. Catherine Lassagne le dit, il semble que Dieu se plaît à combler le vide du dépouillement. Elle le constate chez Curelas. Cet amour et ce don envers Dieu se rendent visibles dans la disponibilité et la joie d'accomplir l'œuvre de Dieu. Ils se rendent aussi visibles dans l'amour, la bienveillance, le service heureux envers les personnes auprès desquelles le disciple ou le prêtre est envoyé ou alors qui l'envoie lui-même. On a comme deuxième confidence, pareil de la comtesse des Garets, l'union avec Jésus-Christ, l'union avec la croix, voilà le salut, dit le curé d'Ars. Là, il cite la marque distinctive des élus, c'est l'amour. Il y aura de l'amour. Et la méchanceté ou la haine, dit-il, auprès des réprouvés, de ceux qui se rétractent, il reste une blessure. Et cette union avec l'amour de Dieu devient une union transfermante. Je cite, « Les saints, ils aiment tout le monde. Ils aiment surtout leurs ennemis, dit-il. Le cœur embrasé de l'amour divin se dilate à proportion du nombre des âmes que le bon Dieu met sur leur chemin, comme les ailes de la poule s'étendent à proportion du nombre de ses petits. Jamais je n'ai été si heureux, dit le curé d'Ars, que dans ces moments où j'ai été persécuté, calomnié. Dieu m'inondait alors de consolation, Dieu m'accordait tout ce que je lui demandais. J'avance sur l'offrande de soi, dans l'obéissance, la mission et le jeûne, et on va voir que c'est la même chose. On ne s'y attend pas. Dans la réponse à sa mission, un oui à l'évêque, qui est au fond un oui à Dieu, se traduit par un oui à la confrontation au réel. Pour tout prêtre, c'est ça. Nous savons qu'il s'agit là de la première réponse à la volonté de Dieu, et non pas seulement comme nous l'accepterions, mais comme lui le demande. En particulier, le virage pour devenir le martyr du confessionnal. On reconnaît ce que disait Jean-Paul II. Trois exemples chez le curé d'Ars. Il n'avait pas choisi ni d'être curé ni d'être confesseur, même si ça fait partie du ministère. Il est devenu, comme par obligation, d'obéissance au réel et à l'appel évangélique à s'occuper des brebis sans pasteur. Il a donc choisi ce qui est apparu progressivement et qu'il a reconnu comme la volonté divine. Deuxièmement, son ajustement à la miséricorde. Déjà, en donnant les sacrements, il se passe quelque chose. Mais aussi en suivant les cours avec Monseigneur de Vie, jusqu'en 1834, il est arrivé en 18, faites la différence, où l'évêque lui dira « Non, non, ne venez plus à Bourg, c'est plus la peine, restez à Ars », ce qui veut dire qu'il se sera transformé intérieurement, et l'évêque l'a vu, « Restez à Ars pour confesser ». Et enfin, troisième lieu, il va rester curé par obligation. J'ai voulu, je le citais tout à l'heure, j'ai voulu mettre le bon Dieu au pied du mur, afin de lui faire voir que si je meurs avec la charge de curé, c'est bien malgré moi, c'est bien parce qu'il le veut. L'obéissance à la mission reçue, c'est le lieu de l'offrande de soi. Le jeûne. Au premier abord, il s'agit bel et bien d'une attitude ascétique de domination de soi pour canaliser, sinon dominer les ardeurs de frère l'âme, disait saint François, ou le cadavre et la carcasse, disait Jean-Marie Vianney. Déjà dans l'apprentissage de la vie de prêtre auprès de l'abbé Ballet, son curé, nous comprenons ce qui se passait alors. Un jour, non pas avec l'abbé Ballet, mais ici, l'abbé Monin raconte qu'un jour, en venant présider au renouvellement des vœux des sœurs de Saint-Joseph, qui ont coutume de le faire le 2 juillet, il entend « Je pensais tout à l'heure que c'était notre Seigneur et ses bonnes religieuses qui sont les épouses de notre Seigneur, c'était entre eux et elles un assaut de générosité à qui donnerait le plus. » C'est audacieux. Entre Jésus et les religieuses. Qui va donner le plus? Par Catherine Lassagne, nous apprenons que c'est toute l'attitude de disponibilité à Dieu du curé d'Ars. Nous savons tous que la visite d'un évêque peut être dans une paroisse, là où est attendu un bon discernement, dessiner les bonnes perspectives pour la paroisse, voire pour le curé, les vicaires, etc. Lorsque l'évêque devait venir à Ars, le curé d'Ars, je cite la Catherine Lassagne, « jeûnait 3 jours ». Pour être sûr de bien entendre ce que voulait dire Dieu à travers son évêque. Il jeûne 3 jours pour être sûr d'entendre ce que veut dire Dieu. Quelle disponibilité à l'écoute de Dieu et comme désencombrement de soi. Et Jean-Marie Vianney précise, celui-ci fait un grand jeûne qui est très agréable à Dieu quand il combat son amour propre. Et voilà, sa répugnance, son orgueil, son amour propre à faire, sa répugnance à faire ce qu'il n'aime pas faire, ou en étant avec des personnes qui contrarient son caractère ou sa manière d'agir. Tout ça, ce sont des lieux d'offrande. Le jeûne apparaît donc comme une œuvre d'offrande personnelle, comme une disponibilité de soi offerte à Dieu. Cette disponibilité de soi s'articule en particulier sur l'offrande de sa volonté propre, la libérant de toute entrave pour entrer plus pleinement dans la volonté de Dieu. Je cite le curé d'Ars. Nous n'avons en propre que notre volonté. C'est la seule chose que nous puissions tirer de notre fond pour en faire hommage au bon Dieu. Aussi assure-t-on qu'un seul acte de renoncement à la volonté lui est plus agréable que 30 jours de jeûne. Je répète. Assure-t-on qu'un seul acte de renoncement à la volonté, à sa volonté propre, est plus agréable à Dieu que 30 jours de jeûne. Et on sait ce qu'il pense du jeûne. Intéressant d'ailleurs quand on sait que le curé d'Ars disait qu'il n'avait jamais pu jeûner plus de 3 jours. Et lui, jeûner, c'est jeûner. Hein. Enfin, Jean-Marie Vianney s'avoue lui-même dépassé dans la course à l'offrande de soi. Je reprends le texte de tout à l'heure. Je pensais tout à l'heure, c'était notre Seigneur et ses bonnes religieuses qui sont des épouses, entre elles un assaut de générosité. Et il a conclu, mais c'est toujours notre Seigneur qui l'emporte. Les religieuses, elles donnent leur cœur. Lui, il donne tout, son cœur, son corps. Pendant que les religieuses disaient, je renouvelle mes vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Toujours le curé d'Ars qui parle. Je leur disais en leur présentant l'hostie, ce que le corps de notre Seigneur garde, que le corps de notre Seigneur garde votre âme pour la vie éternelle. En conclusion sur le nouveau regard sur le jeûne, la course au jeûne comme la course au don de soi. L'enjeu est bien le don de soi. Le jeûne comme obéissance, comme disponibilité sont des facettes dans les diverses circonstances de notre vie. Alors pourquoi c'est si difficile? Il faut chercher. Pourquoi c'est si difficile? Il répond. Il semble que parce qu'on aime le bon Dieu, on doit n'avoir rien qui contrarie, rien qui fasse souffrir. Et oui, sans le péché, nous serions tous heureux, quand bien même nous aurions des croix. Et il dit bien qu'il s'agit du renoncement à sa volonté propre. Un jour, dit-il, une fois, il s'était plaint devant les difficultés. Pour se trouver ensuite dans une immense sécheresse intérieure, il n'a jamais comme recommencé. Pendant 4 ans, 5 ans, j'ai été calomnié, bien contredit, bien bousculé. Oh, j'avais des croix, j'en avais presque plus que je ne pouvais emporter. Je me mis à demander l'amour des croix, alors je fus heureux. Je le dis vraiment, il n'y a de bonheur que là. Or, la seule réponse pour l'homme, c'est Dieu et pas moi. Mais il nous est difficile d'envisager Dieu et de devoir y passer en passant par la croix. Jean-Marie Vianney nous donne quelques indications pratiques. Toutes les fois que nous pouvons renoncer à notre volonté pour faire celle des autres, lorsqu'elle n'est pas contre la loi de Dieu, nous acquérons de grands mérites qui sont connus de Dieu seul. Le bon Dieu ne demande pas de nous le martyre du corps, il nous demande seulement le martyre du cœur et de la volonté. Et pour ceux qui auraient peur de la souffrance occasionnée par ces renoncements, j'ose pas renoncer parce que je vais souffrir, eh bien écoutons ce que nous dit le curé d'Ars. Il n'y a qu'une manière de se donner à Dieu, dans l'exercice du renoncement et du sacrifice, c'est de se donner tout entier, sans rien garder pour soi. Et il précise, le peu que l'on garde n'est bon qu'à embarrasser et à faire souffrir. Quand il reste de l'acidité, de l'amertume, c'est parce qu'on n'a pas tout donné. J'explique maintenant dans le langage sur le libre arbitre. Un jour, il remettait une médaille dans la main de quelqu'un qui lui dit « Monsieur le curé, vous donnez une médaille à un hérétique. » Il était protestant. « Du moins, je ne suis qu'un hérétique à votre point de vue. Malgré la diversité de nos croyances, j'espère qu'un jour, nous serons tous les deux au ciel. » Le bon curé, c'est Mona. Le bon curé prit la main de son interlocuteur, fixant sur lui les yeux dans lesquels se peignaient la vivacité de sa foi et l'ardeur de sa charité. Il lui dit avec un profond sentiment de tendresse compatissante, « Hélas, mon ami, nous ne serons unis là-haut que autant que nous aurons commencé à l'être sur la terre. La mort n'y changera rien. Où l'arbre tombe, il reste. » Question d'œcuménisme, on verra. Mais regardez la réponse. La mort n'y change rien. Là où l'arbre tombe, il reste. Réponse de son interlocuteur. Monsieur le curé, je me fie au Christ qui a dit « Celui qui croit en moi aura la vie éternelle ». Réponse. Ah, mon ami, notre Seigneur a bien dit autre chose. Il a dit qu'il ne devait y avoir qu'un troupeau, qu'un pasteur. Il a établi Saint-Pierre pour être le chef de ce troupeau. Puis, alors, Mona reprend, prenant une voix plus douce et insinuante. Mon ami, il n'y a point deux manières de servir notre Seigneur, il n'y en a qu'une bonne, c'est de le servir ainsi qu'il veut être servi. C'est le plus difficile. Jésus dit à Pierre, derrière moi, au moment de l'annonce de la Passion. Poursuive Jésus pour faire ce que Jésus veut faire, comme Dieu veut le faire. Mon ami, il n'y a point deux manières de servir notre Seigneur, il n'y en a qu'une bonne, c'est de le servir ainsi qu'il veut être servi. Je m'approche de la conclusion. Je note bien dans ce texte-là que Monin a eu l'astuce de noter la vivacité de la foi du curé d'Ars et l'ardeur de sa charité. Il n'a jamais dit cela pour blesser son interlocuteur. Je conclus. Nous avons approché la notion de cohérence de vie chez Jean-Marie Vianney, comme lieu particulier de son bonheur face à Dieu, qu'on disait tout à l'heure. Nous pourrions ensemble aller plus loin en reprenant ce qu'évoquait le pape Léon XIV en s'adressant aux évêques lors du jubilé des évêques à Rome. Trois fois, il dira le même mot, adjectif théologal, dans son texte. Il décrit l'attitude du pasteur, premièrement, pleinement docile à l'action de l'Esprit-Saint, qui suscite en lui la foi, l'espérance et la charité et les nourrit comme une flamme du feu dans les différentes situations existentielles. Nous notons la place de l'Esprit-Saint. Le pape, à ce moment-là, parle d'un homme de vie théologale. Qui ne reconnaîtrait pas à travers ces mots le curé d'Ars qui vit devant Dieu et reçoit la source de vie? Deuxièmement, le pape cite aussi dans la vie pastorale, lorsque le chemin du peuple devient plus difficile, le pasteur, par vertu théologale, dit-il, aide à ne pas désespérer, non pas par des paroles, mais par sa proximité. Il est proche. Il n'offre pas de recettes, mais l'expérience d'une communauté qui cherche à vivre l'Évangile, d'où l'importance, je le disais entre prêtres tout à l'heure. Dans la simplicité, dit le pape, on retrouve le même mot, et dans le partage. Nous notons qu'il n'y a pas seulement les paroles, mais l'expérience de la vie d'Évangile et la simplicité. Si nous ne vivons pas la miséricorde, pourrons-nous en parler et la transmettre? Et il note bien que c'est par vertu théologale. Troisième point, sa foi et son espérance se fondent, se rassemblent en lui comme homme de charité pastorale. Toute sa vie, tout son ministère, et multiforme qu'il soit, trouve son unité dans ce que saint Augustin appelle l'amoris officium, c'est-à-dire la charge de l'amour. Là s'exprime son existence théologale qui vient de Dieu. Dans la prédication, la visite des communautés, l'écoute des prêtres, tout est motivé par la charité du pasteur, puisée quotidiennement dans l'Eucharistie et la prière. Il donne l'exemple de l'amour fraternel, son cœur est ouvert et accueillant, tout comme sa maison. Nous notons les actes du ministère, la diversité du ministère, mais la charité pastorale. Le pape parle alors d'existence théologale. Je tente une synthèse. Son ministère est vécu comme une charge d'amour, amoris officium, est vécu comme une charge d'amour unifiante et non pas dispersante. C'est pour une personne dont l'existence est devenue théologale, qui dépend de Dieu, ayant sa source dans l'Eucharistie et la prière, évidemment la parole de Dieu, se rendant visible dans un amour fraternel dont il devient un exemple, de même que dans toute la simplicité de sa vie. Quoi de plus pour y reconnaître Jean-Marie Vianney? D'où pour moi le mot de notion de cohérence théologale qui nous semble être alors le vocable le plus juste, qui rend compte d'un état et de la dynamique de cet état. Un bon pasteur, c'est un pasteur selon le cœur de Dieu. C'est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse, un des plus précieux dons de la miséricorde divine. Trois choses, il ne fait pas de bruit, il n'apparaît pas sur les places publiques. Je repense à cette phrase de Jérémie ou d'Isaïe, je ne sais plus. Et on ne peut pas non plus faire de tapage sur lui. C'est une petite voix, discrète, humble. Jean-Marie Vianney, c'est une petite voix, discrète. Deuxièmement, il est enraciné à Ars. Il déploie le sacerdoce reçu sur un chemin ordinaire, une vie ordinaire. Des activités aussi variées que banales, ordinaires. Autrement dit, c'est un chemin tout simple, une voie toute simple. Écrivez ça comme vous voulez. Tandis que le monde auprès duquel il aurait pu aller porter la bonne nouvelle vient en fait à lui, voir Dieu dans un homme. Lui, il répond tout entier à Dieu, tout entier à Dieu. Missionnaire immobile, comme l'a noté le professeur Philippe Boutry à la suite de l'abbé Naudet, il donne la possibilité à chacun d'un reflet du sacerdoce qui pourra miséricordieusement le toucher. Tout entier à Dieu, c'est un exemple, c'est radical, c'est raccourci, c'est aussi efficace, bien que souvent dans la nuit. Je vous remercie.